Deuxième numéro de Comedy News Weekly Podcast, donc en gros, ce qui s'est passé dans le monde de la farce au cours de la dernière semaine, et avec Anthony Mirelli. Salut Anthony!
Salut Dan!
Ça va?
Ouais, toi?
C'est toujours hyper naturel, les gens qui se disent « Salut, tu sais qu'ils sont ensemble depuis au moins une minute avant de commencer l'émission. » Donc, deuxième numéro, vous pouvez nous suivre sur Twitter, c'est @CNWPodcast. Voilà, c'est assez simple. Pas mal de trucs cette semaine, on va essayer de se concentrer sur deux, trois éléments en particulier. Les séries télé, parce qu'on voit la grosse rentrée pour les grosses chaînes. Et il y a eu un excellent truc, on en avait parlé la semaine dernière, le roast de James Franco. Il est passé sur Comedy Central cette semaine. J'ai eu les chiffres, 3,1 millions de téléspectateurs.
Je sais pas ce que ça représente pour cette chaîne, c'est bien? Je suppose que oui.
3,1 millions, c'est comme une mauvaise soirée sur les grosses chaînes. Donc, sur une chaîne spécialisée, c'est huge. C'est un des bons scores qu'ils ont fait depuis un petit bout de temps. On va en parler. Quelques news télé aussi. La semaine passée, on parlait de Y'a pas d'âge. Tu m'as dit que tu as reçu les chiffres aussi pour les premières diffusions.
Apparemment, ça marche pas des masses. 1,6 million de téléspectateurs et ça baisse d'épisode en épisode. Jour en jour. Donc, ça sent pas très très bon.
Mais le premier que j'avais vu, honnêtement, donnait. C'est ça qui est dur, donnait pas super envie. Des fois, ça met du temps que les personnages se calment. Mais tu sais quoi, cette semaine, je vais en regarder un épisode et je le débrieferai. Peut-être.
Surtout que j'ai vu qu'il y avait Marthe Villalonga, t'en avais pas parlé.
Who the fuck? Je sais pas qui c'est.
C'est Maggie. Elle jouait dans une série. C'est une espèce de petite vieille juive, comédienne. Voilà, mais c'est pour dire que vraiment le casting est encore mieux que.
Ouais, laisse-moi deviner.
Ce qu'on avait annoncé, quoi.
Elle joue le rôle d'une dame qui est vieille.
Ouais, voilà.
Et qui, genre, on sous-estime, mais qu'en fait.
C'est peut-être la femme de Claude Brasseur.
Elle en a plein dans la caboche.
Ça doit être ça, ça doit être ça.
Elle a un rôle effacé.
Mais c'est vrai qu'on aurait dû regarder.
Mais elle n'en pense pas moins. Et à un moment où on s'y attend le moins, elle doit arriver avec une conclusion super lucide alors qu'on pensait qu'elle avait rien compris. Et tout le monde est comme « What? »
Il faut qu'on fasse un talking y'a pas d'âge.
C'est quoi, la semaine prochaine, on check un épisode au hasard. De toute façon, j'imagine c'est vaguement toujours le même. Et puis, on fait un talking y'a pas d'âge. Si vous avez toujours pas vu la série, vous dites « Ah, mais je vais peut-être quand même aller checker par moi-même. » C'est comme quand tu dis « Ah, cette vidéo-là est dégueulasse, allez pas la voir. » Et que les gens vont la voir quand même. Puis ils vont dire « Ah, c'est dégueulasse, j'aurais pas dû aller la voir. » Puis tu dis « Je te l'avais dit. » Moi, je vais dire, tu sais quoi, « Allez voir y'a pas d'âge. » Curieux d'avoir un autre avis.
Et demain, la semaine prochaine, il passe à 2,5 millions.
Ouais, c'est ça.
Rien qu'avec nous.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en France, je suppose.
On est partout. On est partout dans le monde. En fait, on est partout dans le monde. En théorie.
Ouais.
Ça, c'est ça la grosse différence. J'ai un autre truc en télé française, moi j'ai vu. Ça m'a déçu parce que j'aime quand même beaucoup et l'esprit et ce qu'ils font, c'est le petit journal. Mm-hmm. Ils ont fait des bonnes vannes avec Franck Ribéry. Et c'est Franck Ribéry qui a dit « J'espère que la roue tourne va vite tourner pour nous et pour eux. » Ce qui, bon, oui, est marrant parce qu'il s'est trompé, mais quand tu vas vers des joueurs de foot pour espérer avoir du bon français, tu vois, c'est comme aller voir un film de Woody Allen, comme on disait, pour aller essayer de trouver des explosions.
Mais peut-être que l'actu était pas...
Oui, mais... Et le côté, après, Barthes qui revient, qui check dans le dictionnaire, qui trouve pas routour.
C'est un grand classique du petit journal, le dictionnaire.
Puis après ça, il va dire, ah, il faut juste savoir si c'est masculin ou féminin. Et déjà, OK, tu peux te foutre de la gueule, mais viens de dire la routour. Donc, à la limite, tu sais que c'est le mot qui n'existe pas, qui serait féminin, selon Ribéry. Mais le côté... J'aime pas les trucs qui deviennent des punchlines par elles-mêmes. Genre, mettons, quand tu fais une blague de Loana, qui, en France, ça cartonne les blagues de Loana. On peut pas faire des blagues de cancer ou de sida parce que c'est, ou d'homosexuel parce que ça se fait pas. Mais des blagues d'une fille qui a fait de la télé-réalité, qui a engraissé, qui a tenté de se suicider, ça...
Engraissé.
Ça, c'est drôle, ça.
Ouais, mais c'est de l'humour facile et ils sont clients, je pense.
Ouais, mais je...
Mais il y a un mauvais esprit général à la télé française, j'ai l'impression...
Il y a une différence entre subversif et facile, je trouve. Ouais. Au contraire.
Ouais, c'est vrai.
Et même le fait, moi, je trouve ça très drôle, les blagues sur le cancer. Franchement, ça me fait énormément rire. Mm-hmm. Parce que tu dis, ah, mais c'est triste, et, genre, c'est une grave maladie. Blah. Mais t'as plein de blagues sur le Parkinson. Alors que le Parkinson, je veux dire, c'est horrible. Moi, j'ai quelqu'un que je connais, sa mère, Alzheimer. Alzheimer. Et tu dis, bah, tiens, la personne, elle est encore vivante, mais j'ai l'impression qu'elle est morte parce qu'elle me reconnaît pas. Tu sais, c'est aussi super triste. Mais on a décidé que Alzheimer, c'était marrant, et cancer, ça, on ne pouvait pas. Et je comprends pas la hiérarchie de la gravité dans les maladies. Tu vois, qu'est-ce qui fait que.
Mais c'est s'il y a des émissions contre. Enfin, pour ces émissions, ils font pas de blagues. Pour ces maladies, ma phrase ne voulait rien dire. Mais tu vois, s'ils ont un site d'action, bon, on va pas faire trop de vannes sur le sida. S'ils ont un téléthon, pas trop sur les handicapés.
Alors que ça devrait
Alzheimer, il n'y a pas d'émission en France pour Alzheimer.
Mais non, parce que les gens...
Les gens oublient.
Ils oublieraient de leur carte.
Mais non, mais je pense que c'est ça, vraiment. C'est... Ils ont bonne conscience avec les enfoirés, donc on se fout pas de la gueule des pauvres. Mais le reste, on balance, quoi.
Ouais, non, c'est assez bizarre. Et autant, il y a plein de chouettes trucs, je trouve, dans le petit journal. Et tu, quand tu vois l'esprit, ça me faisait penser en fait au truc de Craig Ferguson, donc le gars qui fait du Late Show, celui qui est produit par Letterman, qui passe après Letterman sur, sur CBS. C'est l'Écossais qui était assez trash à la base. Il y avait un personnage quand il a commencé à faire de la comédie qui s'appelait Bing Hitler. Donc il n'a pas commencé soft, tu vois. Et lui, un jour, il a fait un monologue quand Britney Spears s'était rasé la tête. En disant, ah, je sais pas si vous avez vu, Britney Spears s'est rasé la tête ce week-end, tout le monde rigole. Mm-hmm. Tu sais quoi, j'ai pas envie de faire de blagues là-dessus, parce que moi, j'ai préféré mon week-end au sien. Moi, ce week-end, j'étais, c'était mon genre 9-10e anniversaire, je sais pas quoi, de sobriété. Et il raconte que lui est alcoolique, il raconte les mésaventures qu'il a eues, et puis après ça, il part sur une tangente où il dit, et tu sais quoi, j'en ai marre. Dernièrement, j'ai l'impression d'avoir toujours tapé sur les cibles faciles, les Anna Nicole Smith, les Britney Spears, et c'est pas le point. Le point, quand tu veux être un peu subversif, c'est de taper sur des gens qui, tu sais, s'ils veulent, ils peuvent se défendre ou un truc comme ça.
Ouais, mais en même temps, est-ce que les gens ont envie de ça à minuit, dans un monologue de 4 minutes?
Mais si t'es drôle, t'es drôle.
Peu importe. Oui, non, sujet. Mais je peux comprendre pourquoi ils tapent plus facilement sur ces gens-là. Après, je comprends tout à fait son point, mais le principe d'un late night, c'est souvent...
C'est supposé être smart, un minimum, le late night. Je disais, l'invention du late night, Steve Allen à l'époque, ouais, pour ne pas faire de name dropping, c'était les humoristes...
Déjà mal barré.
À fond. Les humoristes en avaient marre de, qu'on leur demande de faire du mainstream. Mm-hmm. Ils disaient, si on passe en télé en prime time, ils nous demandent toujours de faire rire les gens de 7 à 77 ans, les familles, les Palestiniens, les SDF, tout le monde. Ils disent, nous, on va sortir du prime time, et on va faire une émission, on va pouvoir faire ce qu'on a envie de faire avec les gens qu'on a envie de faire. Laissez-nous être smart. Comme on a envie. Et c'est et voilà, et c'est pour ça, et je dis pas quand tu fais des trucs tous les jours, évidemment, de temps en temps y avoir un truc comme... et c'est pas le fait que ça soit drôle ou pas drôle, c'est juste le fait de, c'est comme faire des blagues de Rome ou de Zaz ou de, tu vois, ça devient des, enfin, c'est des pas quand on, quand
mais c'est des mot... mécanismes, hein, tu
ouais, DSK,
ouais,
quand des mots deviennent des punchlines, tu vois, si le simple fait de dropper un nom, ça, ouais, ça fait une punchline, c'est qu'il est peut-être temps de la prendre, de la mettre dans une boîte, tu sais quoi,
et d'oublier
plus tard. On appelle ça des archives quand on va... Tu te souviens l'époque où on faisait que des blagues de tel truc? Donc voilà, c'était juste le truc sur le petit journal qui sinon, elle est pas morte, mais...
Pour revenir à un truc dont on avait parlé en français, dans le grand journal, il y avait le... Pendant ce temps...
Ouais.
Maintenant, générique à la fin, c'est mis basé sur Meanwhile de Thomas Ridgewell.
Ah oui, donc pour ceux qui n'ont pas suivi.
Une seconde.
C'est la vidéo de Kevin Razi et Le Kemar qui font donc un truc humoristique pendant ce temps. Donc c'est vraiment des séquences un peu. C'est la base de la comédie qui est ici.
Ouais.
Et what if, à partir du moment si t'as le what if, c'est vraiment la base de la comédie. Et c'était, il y avait un anglais qui avait dit, ah tiens, ils ont piqué mon idée. À la base, Canal avait dit, ah, ils l'ont fait juste une fois, donc ça va. Et puis finalement, ils ont trouvé un accord. Et tant mieux.
C'est au générique, c'est mieux, oui. Ça. Ouais, non, mais c'est bien. Mais après une semaine, voilà, il est au générique.
Surtout, je vois pas l'intérêt. T'as aucun intérêt à pas citer d'où t'as pris les trucs.
Ben, si tu penses pouvoir t'en sortir
sans payer,
ouais, voilà. Ouais. En plus, c'est Canal+, l'argent est long. Et autre chose qu'il y a sur le grand journal, dans le grand journal, ça s'appelle les tutos. Je sais pas si t'as vu.
Ouais, un mec qui s'appelle Camille.
Jérôme Niel. Non, Jérôme Niel.
Qui avait fait le truc, c'était la ferme Jérôme, lui, c'est ça?
Ouais. Et il avait fait le majordome pendant Cannes.
Ok.
Et ici, c'est. Moi, j'ai trouvé ça hyper drôle, et j'ai montré à plusieurs personnes et personne n'a rigolé.
J'ai eu du mal, moi. J'ai regardé, j'ai eu...
En gros, il jouait un espèce de je sais pas, un fou complètement défoncé qui...
Psychopathe low life.
Ouais, voilà, qui fait des tutos, et le premier, c'est des masques de beauté, et il gueule, et c'est cut, il a des réactions bizarres, il crie, il lance des trucs.
Il insulte, en gros, c'est ça.
Ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça hilarant. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas, moi, j'avais vu, c'est le dessinateur Lapus qui avait posté ça en disant, putain, j'ai du mal, et j'avais été voir, et il y en avait mis une autre en disant, j'y arrive vraiment pas, et j'ai regardé, et je...
C'était ce truc-là, les tutos?
C'était les tutos, ouais. Et je sais pas, moi, je...
Mais les gens regardent, mais quand je l'ai montré, les gens regardent et ils se disent ouais, c'est quoi.
En fait, je trouve que ça manque d'une histoire. Mettons, on dirait un peu le personnage de François Lambrouille, François Damiens, les caméras cachées, mais avec lequel il se passe rien.
Mais c'est le premier aussi, il a fait qu'un numéro.
Ben, je crois qu'il faisait sur Internet avant, non?
Ah, moi je connaissais pas. Non, apparemment c'est un truc.
Parce que je pense en avoir vu. Moi j'en ai vu un autre que les masses de beauté. Donc j'ai vu les cupcakes.
Ah non, j'ai pas vu.
Ok, ben ça doit être sur Internet avant. Ils ont acheté. Et je sais pas. Il y a. J'ai pas ri. C'est juste ça. Tu sais, des fois tu dis c'est de la crise de marde. Mais là, j'ai juste pas ri.
Moi j'ai rigolé comme un dingue. Et tout en sachant que ça ne fera rire probablement personne. Hein.
Mais toi t'aimes aussi les trucs à sketch, genre Tim et Eric.
Ah, moi je suis fan de Tim et Eric, et d'ailleurs je pense qu'on en parlera probablement la semaine prochaine.
Okay, Tim et Eric, en gros, et si vous voyez Saturday Night Live, ben faites puis Zach Galifianakis, enlevez tout ce qui reste de sens et achetez pour $1 milliard de maquillage.
Et moi, tu me dis Tim et Eric, je rigole tout seul, voilà. Tu me dis Tim et Eric, je rigole pendant une demi-heure.
Mais en fait, t'es un enfant, man. T'aimes les clowns.
Ouais, mais non, mais Tim et Eric, ce qu'ils font. Ben, on va pas repartir là-dessus parce que moi, je peux en parler pendant une heure, mais.
C'est des clowns.
Ah oui, non, mais. Oui, ouais, ouais. C'est.
T'es un enfant.
Mais parce que, voilà, je pense qu'on va faire un numéro spécial, à mon avis, ce qui est drôle un peu sur YouTube et ce genre de choses. Et ils ont lancé une chaîne avec Michael Cera, Sarah Silverman et Reggie Watts, qui s'appelle Josh, qui est très très bien. Et ils ont des mini-sketchs là-dessus, dont une mini-série qu'ils ont eux-mêmes tuée, qui s'appelle Tim's Cooking Tips.
Ok, donc les conseils de culinaire de Tim.
En gros, il est faussement sponsorisé par une fausse marque de moutarde et il prépare que des sauces.
Ok.
Et à chaque fois, il dit mon petit ingrédient surprise, il met là. Et puis il fait venir goûter à Eric, du coup. Et Eric vient et dit j'ai pas le temps pour ton show, c'est de la merde. Et ce qu'il fait, c'est toujours dégueulasse. Et puis pendant le générique, ils se disputent.
Ok.
Et ils disent pourquoi tu m'as fait venir. Et il y en a quatre et c'est tout le temps la même chose. Ça dure 7 minutes, mais c'est surréel en fait. Surréaliste.
Ouais.
Et surréel aussi.
Surreal.
Ouais, voilà.
C'est ton côté anglophone. Heureusement, il y a aussi un Tumblr avec tous les liens vers les trucs si ça vous intéresse pour une raison ou pour une autre d'aller cliquer là-dessus.
Non, c'est intéressant, je pense, de voir. Quoi ressemblent toutes ces personnes.
À fond. Donc voilà, on va pas s'attarder non plus là-dessus. Donc moi, c'était ça que j'avais à dire sur les trucs que j'avais vus en télé. Toi, t'avais pris quelques notes supplémentaires cette semaine.
Non, pas grand-chose. Peut-être dire que Eddie Murphy est enfin sur Twitter, @EddieMurphy, et qu'il a enregistré une chanson avec Snoop Dogg.
Snoop Lion maintenant.
Snoop Lion, ouais. C'est un reggae d'ailleurs. Donc voilà.
Et une chanson comique ou une chanson sérieuse?
Non, une chanson sérieuse.
C'est fou, parce que ceux qui sont plus jeunes, quand tu leur dis que Eddie Murphy.
Mais c'est probablement comique.
Ouais, ironiquement.
Voilà.
Quand tu dis que Eddie Murphy était un des meilleurs humoristes de tous les temps, ils te regardent avec des yeux bizarres. Mais Raw et Delirious, ces deux specials qu'il avait fait, un en cuir. Mauve et l'autre.
Mauve.
Donc, il y en avait un en mauve rouge, et l'autre en rouge.
Ouais.
Raw c'est en rouge et Delirious c'est en mauve, je crois. Et encore aujourd'hui, genre au MediaMarkt, tu peux trouver pour 3-4 euros le Raw.
C'est vrai?
Oui, ouais, mais c'est là que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je l'ai revu et c'est. En fait, c'est fou parce que quand tu regardes ces stand-up-là, tu vois quelques blagues de français d'ailleurs.
Et bien sûr, mais beaucoup ont été piochés dans des trucs qui sont arrivés très tard ici, donc...
Ça a 30 ans, le truc. Et d'ailleurs, il y a une espèce de petite vidéo au début qui introduit Ross. Et en gros, il fait un jeune Eddie Murphy dans sa famille où il y a plein de gens qui ont du talent. Sa sœur chante et c'est mignon. Et lui, il fait des blagues où il parle en pétant avec ses fesses, en gros. Et t'as un oncle qui trouve ça très, très drôle. Et c'est qui, l'oncle, en question?
Non.
C'est Samuel Jackson.
C'est à quoi? C'est un truc qu'ils ont tourné il y a...
Il y a 30 ans.
Ah, c'était à l'époque, oui. Je pensais qu'ils avaient refait un machin pour le DVD.
25 ans, 30 ans, je me souviens plus, mais ça date à fond. Et c'est franchement, c'est dans le top 10 des meilleurs specials de tous les temps. Et voilà. Et je sais pas, donc une chanson, pourquoi?
Je sais pas, ça s'appelle Red Light, il avait envie.
En même temps, pourquoi pas aussi?
Mais au point où il en est, pourquoi pas?
À besoin, t'as de l'argent, genre à pouvoir t'en foutre de tout. J'imagine que si t'as envie de le faire, t'en as rien à. Imagine à quel point ce gars-là doit en avoir rien à foutre des critiques qu'il peut avoir.
Oh, mais il l'a cherché aussi, il a quand même fait pas mal de merde. Hein.
Oui, mais.
Il y avait une période où c'était encore drôle. Parce que moi, je suis. Toi, des clowns, on l'a dit, je pense, et moi, tu peux péter, je rigole. Tu vois, le truc, la famille folle dingue, moi, ça me fait rire, je sais pas pourquoi. C'est.
À partir du moment où il a arrêté de mettre son son déguisement de gros. C'était
ouais, voilà. Mais tu vois, les derniers, c'est encore pire que ça, quoi. Thousand World, tu l'as vu?
Mais non, mais qui va voir encore les films d'Eddie Murphy?
Ben moi.
Ah, mais toi, c'est pour ton boulot que tu vas les voir.
Non, celui-là, non. Mais personne ne sort de ce machin-là en Belgique, donc...
Ah ouais. Même en DVD, tu les trouves pas?
Je pense pas. Si, tu dois le trouver. Mais non, celui-là, je voulais le voir parce que c'était Alain Chabat qui produisait, en partie. Et je me souviens que pendant genre 2 ans... Tu vois le film, je crois que ça s'appelle 1000 mots, un truc comme ça.
Oh, oui, oui, t'as le dernier. C'est ça, c'est genre si tu, il reste mille, dans 1000 mots, il meurt en gros.
Voilà.
C'est que, comme les barons, un peu fois, comme les barons.
À chaque fois, ouais, à chaque fois une feuille qui tombe de son arbre quand il n'y aura plus de feuilles, ben voilà.
Alain Chabat.
Ouais, ouais, ouais. Et je me souviens qu'il frimait un peu, tu vois, en disant, ouais, bon, le prochain film c'est avec, avec comment il s'appelle, Eddie Murphy. Tu vois, ouais. Et tous ces mecs-là se l'ont pété. Arthur aussi a produit un film avec Tom Hanks et Julia Roberts. Et alors, il venait sur les plateaux en disant « J'étais sur le tournage. » Et c'est les pires films qu'ils ont fait, tu vois.
Ouais, mais en même temps, ça veut dire que si, j'imagine que s'ils demandent à Arthur ou Alain Chabat de les produire, c'est que tous les gens à Hollywood ont fait « Nope, nope, thank
ouais,
you. »
Ouais, déjà. Et puis, ils sont pas majoritaires, quoi. Ils sont...
Ouais, j'imagine. Mais en même temps, si moi, j'ai l'occasion un jour de produire un film même avec Eddie Murphy, même s'il dit « En fait, c'est l'histoire de moi qui va juste faire « pendant 1h30, si j'ai l'argent, c'est sûr je le fais, juste pour pouvoir aller voir Eddie Murphy en live sur le plateau, puis mettre une photo sur Twitter, faire...
Ben, c'est check, ce que je suis eux l'ont boss. Fait. Ils l'ont fait, voilà.
Mais tant mieux qu'ils s'amusent un peu avec leur pognon, quoi.
Ben, ils s'amusent, ouais.
Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec? S'acheter une 11e bagnole?
Eddie Murphy, il est au pute.
Ah oui. Ben, en même temps,
il s'amuse, t'inquiète, il s'amuse.
Eddie Murphy, mais il y en a combien d'enfants? Il y en a genre 7-8, un truc comme ça.
Ouais.
Je pense qu'il a arrêté de
l'écouter. Ou alors c'est peut-être lui qui joue des enfants en costume.
Dans sa famille, au petit-déj, c'est Eddie Murphy qui fait tous les personnages.
En fait, il est tout seul, le mec.
Le gars a jamais été marié, quoi. Il met juste sa bite comme il faut entre ses cuisses. Il se fait un mangina, comme on dit.
Hey.
Il se regarde. Je me suis posé la question, dans l'échelle, franchement, du auto-érotique, je dévie 2 secondes, mais. Genre, se masturber, il n'y a aucun gars qui considère que c'est homosexuel, on est d'accord.
Ouais, mais pourquoi on parle de ça?
Parce qu'on parlait du mangina d'Eddie Murphy.
Okay.
Une auto-fellation, c'est gay ou pas gay?
Déjà chapeau.
Déjà, c'est athlétique.
Déjà vachement souple.
Avant d'être gay ou pas gay, c'est athlétique, ça c'est sûr. Et je me... Donc, c'est un peu une zone... Je pense qu'il y a des gens qui vont dire oui, des gens qui vont dire non. Mais le... Si t'arrives à te la mettre
et d'autres qui vont se dire qu'est-ce qu'il raconte.
C'est ça, enchaîne, on dévie un peu.
Non mais vas-y parce que et je vois non, que non, ça te tient à cœur.
Si t'arrives à te la mettre toi-même, là est-ce que c'est gay? En fait, ce que je veux dire, est-ce qu'il y a une ligne claire entre l'onanisme?
Toi, tu prépares un casse de banque et tu dis si je vais en prison, faut que je gère tout de A à Z.
Le gars qui il s'entraîne à se faire pénétrer. Je vais aller en prison.
Et il fait tomber la savonnette pour lui-même.
But I don't care!
Ok.
Bon, ben écoute, bon. Ça a vite dévié, ça.
On aura de quoi te roaster si jamais ça arrive un jour.
Moi, on va avoir plein d'autres choses pour me roaster, mais on n'est pas là pour...
Dan est tellement gay qu'il mettrait sa propre bite.
S'il était capable d'y arriver. Le roast de James Franco?
Ouais.
Donc, roast, en gros, tu prends quelqu'un de connu, tu demandes à 10 personnes de venir l'insulter pendant 1h15, mm-hmm. Et le dernier 10 minutes, c'est la personne qui s'est fait insulter qui répond. Et en général, les places sont assez chères pour ce genre d'événement-là, et ça va à une œuvre de charité. Mm-hmm. Souvent, c'est ça le principe. À l'époque, tu avais les Dean Martin de ce monde qui le faisaient, ça a continué. Et là, tu as James Franco qui a d'ailleurs produit son propre roast, co-produit son propre roast. Et c'est drôle parce que d'habitude, c'est des gens un peu plus vieux qui font le roast. Et là, c'était toute la clique des trentenaires pour la plupart qui étaient là. C'était
surtout des gens pas très talentueux avant. Ou qui ont plus ou moins raté à un moment donné une étape de leur vie.
C'était plus aussi des road comics. T'avais des gars qui, tu voyais, passaient plus de temps dans un bar que devant la caméra de NBC ou CBS, quoi. Les Geraldo de ce monde.
Ah oui, mais toi, tu parles des roasters. Moi, je parle des roastés.
Ouais, les roastés, d'habitude, c'était un peu des has-beens. T'avais genre des has-beens. Des gens qui avaient une longue carrière, qui étaient aussi semi-détestés pour une raison ou pour une autre. Charlie Sheen l'a fait, Donald Trump l'a fait. William Shatner, dernièrement.
Après, ils ont eu des gens drôles, hein. Des mecs comme Bob Saget, c'était drôle. John Rivers, tu vois, elle est encore drôle.
John Rivers, pour ceux qui ne voient pas, imaginez quelqu'un qui a subi trop de chirurgie plastique.
En même temps, elle est tout le temps à la télé, hein. Tout le monde connaît plus ou moins avec Fashion Police.
Ah oui, c'est vrai. Je regarde pas Fashion Police.
Moi, je suis forcé par elle se reconnaîtra. Donc voilà, mais
pour ceux qui n'ont pas compris, c'était donc sa mère. Et donc voilà, donc t'avais 10 personnes et c'était hosté par Seth Rogen. Seth Rogen qui on a vu entre autres dans Pineapple Express, c'est lui dans Zach et Miri, ils font un porno.
Ouais.
40 ans toujours puceau, il joue un collègue de Steve Carell, etc. C'est il fait que des stoner movies à peu de choses près. Il a joué dernièrement dans un film avec Barbara Streisand.
The Guilt Trip.
Ouais, et qui s'est d'ailleurs, il s'en est d'ailleurs pris quelques-unes pour ça. Et c'était, moi, un des trucs. Franchement, je pense que c'est le truc le plus drôle que j'ai vu cette année. Il y avait tous des styles assez différents, les gens qui ont roasté. Et honnêtement, je sais pas si on peut mettre.
Et surtout, c'est la première fois, ou en tout cas, quand c'est depuis l'ère Comedy Central, où les gens se disent. Ils ont commencé à dire pourquoi on fait ça, tu vois. C'est tous vraiment une vraie bande de potes.
Oui.
Et ils faisaient une vanne et puis ils disaient désolé.
Oui, c'est désolé. Ça. Il y avait l'air de s'aimer un minimum. C'était pas juste des genre je te défonce pour essayer d'être dans les. Sur les sites, avoir mon extrait sur les sites internet demain matin quoi. Donc Seth Rogen a fait une série de blagues, une des bonnes qu'il a fait sur James Franco, c'est quand il lui dit ça va James, parce que j'ai l'impression que toi tu dors pendant que moi je me tape tout le boulot, ça me donne quasi l'impression d'être en train d'animer les Oscars avec toi. Donc quand il avait animé avec Anne Hathaway et James Franco, il s'en est pris assez cher pour ça, à juste titre, à fond. Après ça, Sarah Silverman, qui je sais pas quel âge elle a maintenant, mais
elle doit bien avoir 40.
Elle est tout à fait spermable, quoi. Franchement, elle est vraiment bien, je trouve. C'était peut-être pas le bon terme. Elle a fait aussi, il y avait Jonah Hill qui était là. Jonah Hill, c'est le gars qui a joué avec Brad Pitt dans Moneyball, le film sur le baseball, entre autres. Et elle a dit « Ah, Seth Rogen va venir ici, il en a roulé un très gros. » C'est la seule façon qu'on avait d'amener Jonah Hill jusque sur le podium.
Mais ils étaient tous très bon enfants, sauf Natasha Leggero, qui, à mon avis, avait beaucoup de choses à prouver.
Ouais.
Et c'était même froid, je trouve, sur le plateau avec Seth Rogen ou quoi. Ils se regardaient un peu bizarrement.
Ouais, même quand ils se donnaient la main, quand Natasha est arrivée pour faire le roast, ils se donnaient la main avec Rogen, mais sans trop se regarder.
À mon avis, c'était Comédie Centrale qui l'a un peu
imposé,
comme Jeffrey Rose, mais bon, lui, il est là, quoi.
Il est assez drôle. C'est lui qui, effectivement, avait la vanne la plus violente sur la grand-mère, de James Franco.
Quoi qu'il y en avait deux autres de Leggero que j'ai trouvé un peu malsaine et même une très déplacée, c'est. Elle a dit à Bill Hader qu'il était le Phil Hartman de sa génération. Phil Hartman est surtout connu, c'était la voix de Troy McClure et de Lionel Hutz, l'avocat dans Les Simpsons.
Ah, okay.
Dès qu'il est mort, c'est pour ça qu'on voit plus les personnages en fait, c'est que ils n'ont pas voulu continuer sans Phil Hartman qui était un génie, c'est vrai. Mm-hmm. Mais elle lui a dit voilà, t'es le Phil Hartman de ta génération. Elle lui a dit hopefully, donc.
Genre,
croisons les doigts pour que tu crèves d'ici quelques années.
C'est quand même ça, c'était assez violent.
Et puis elle a dit The room is buzzing, et pas seulement à cause des mouches autour de la famille d'Aziz Ansari.
Oui.
Ce qui est drôle, mais extrêmement raciste.
Mais il y a eu pas mal de blagues sur aussi le fait que James Franco, il y en a beaucoup qui a des rumeurs comme quoi. Des rumeurs en fait. Il y en a qui disent qu'il est, disons, très ouvert sexuellement, qu'il serait bisexuel. Et c'est vrai que ça m'a un peu mal à l'aise parce qu'il y avait tellement de gags là-dessus que ça faisait comme si. C'était bizarre qu'il soit bisexuel alors que le gars il fait ce qu'il veut, qu'est-ce que ça peut foutre à qui que ce soit. C'est peut-être le fait que ce soit caché, plus qu'il faisait des blagues sur lui, mais t'as eu pas mal de.
Donc il est très beau et que tout le monde veut coucher avec, comme ils avaient l'air de le sous-entendre.
Qu'est-ce qu'il disait à un moment donné sur lui? C'est on est ici réunis ce soir pour que James Franco réalise un des rares trucs sexuels qu'il n'a pas encore fait, c'est-à-dire 10 de ses potes qui lui chient dessus. Et Aziz Ansari a fait justement des blagues après là-dessus en disant quoi, qu'est-ce qui se passe, les gars? Pourquoi est-ce que tout à coup tout le monde fait des blagues de gay sur James Franco? Ça y est, si t'as lu plus qu'un livre dans ta vie, que t'es le moindrement beau et que t'as pris une douche de temps en temps, ça y est, t'es gay? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes tous agressivement gros, fat et incultes?
Tu vas avoir des bites qui te volent au visage.
Tu crois que c'est dès que tu prends une douche, tu vas avoir des bites? Dicks that would come flying into your face? C'était énorme. Franchement, il y avait. Mais après ça, j'ai regardé dans les. Et ça, c'est vraiment un truc de geek, de. Geek du Moïse. J'ai fait pause sur le générique, man. Et ça, quand ça commence à faire. Ouais. Parce que t'avais donc tous les gens qui ont écrit leur matériel.
Dont John Mulaney qui était là aussi dans le tas.
Et voilà, c'est ça. Après, t'avais genre additional material written by. Et t'avais entre autres Anthony Jeselnik qui était là-dedans, John Mulaney.
John Mulaney était dedans.
Et c'était bien. Il y avait pas mal de blagues sur l'ego d'Aziz Ansari aussi, qui fait souvent comme quoi.
Ce qui est vrai, on en parlait la semaine passée, c'est vrai.
Et
c'était confirmé.
Un des meilleurs gags qu'ils ont fait, c'est. Ah, je vois pourquoi un tel et un tel est là. Je me demande juste pourquoi. Je crois qu'ils ont nommé Nick Kroll.
Leggero et Ansari.
Leggero et Aziz Ansari sont là. Et si vous voulez savoir à quel point Aziz Ansari a de l'ego, en ce moment même, il est hyper fâché d'être mis dans la même catégorie que deux no-names comme Leggero et Nick Kroll, quoi. Beaucoup de blagues sur de trucs juifs aussi, forcément. Je dis forcément, ça fait hyper raciste, forcément, parce que c'est drôle de moquer de juifs. Non, mais c'est avec, il y avait beaucoup de gens juifs qui se. D'attachants juifs, ça sonne vraiment pas très bien. Le gars qui est en train de creuser, ça tombe. Mais non, il y a beaucoup de juifs qui se font des blagues de juifs entre eux. Et c'est fou parce que c'est pas tout à fait de la même manière. L'humour, genre les gags, quand un juif est une punchline, c'est pas du tout joué de la même manière en Europe que là-bas. Là-bas, c'est vraiment des gens qui se font des gags un peu entre eux, tandis qu'ici, t'as l'impression que c'est plus souvent des gens qui font des gags sur les juifs en l'étant pas eux-mêmes. Je sais pas si c'est très intéressant comme observation, mais c'est...
Mais ouais, mais c'est des machins à la Coluche et... C'est des lui proches, qui a lancé ces machins-là, oui. Et on fait encore des blagues sur les Belges. Et c'est les mêmes vannes que Coluche faisait, tu vois. On est con et on a un accent. C'est des stéréotypes qui ont été lancés et on n'a pas vraiment retravaillé le truc, quoi.
Mais c'est ça qui est horrible. C'est quand tu dis que ce sont les mêmes vannes, c'est pas dans le sens de... C'est vraiment la même catégorie de vannes. Non, c'est le texte.
C'est vrai.
C'est le même.
Ouais. C'est affreux. Mais donc voilà. Non, là-bas, c'est autre chose. Et c'est vrai que c'était extrêmement drôle et plutôt bien vu. Et d'ailleurs, les articles qui en sont sortis, c'est est-ce que c'est une nouvelle ère pour les roasts?
Bah, c'est plus diffusable. C'est plus facile de vendre l'idée parce que le roast de Pamela Anderson, moi, me faisait beaucoup rire. Mais si tu vas voir quelqu'un en France ou en Belgique en disant, hey, on ferait bien un roast, regardez ce que c'est.
Là c'était quand même vers la fin, et même le Charlie Sheen et tout ça c'était un peu devenu malsain parce que même t'avais des rosters qui étaient un peu, tu vois, t'avais des Giraldo et tout ça qui étaient un peu camés, enfin ouais. C'était un peu fin de vie tous, quoi, tous, ouais, bourrés, des filles comme Lisa Lampanelli qui était pas là ici, mais bon, tu vois, elle aussi elle a pas
ça fait un peu fond de bord comme ça,
ouais, voilà.
Et je sais pas s'il y a les sous-titres, mais je sais que c'est assez facile de trouver si vous tapez pour trouver le roast. D'après, en général, tous les trucs sont sous-titrés. Moi, j'ai pas vérifié, mais si, franchement, ça vaut la peine de le chercher et de regarder. Parce que si vous êtes fan d'humour, en gros, il n'y a pas d'histoire dans les roasts. C'est 1h10 de punchline ininterrompu, quoi. Le seul qui a fait une histoire, c'est Andy Samberg. Je vais pas dévoiler le punch, mais disons que c'est un gars qui n'imagine pas du tout juste faire des insultes. Et il a réussi à faire un bon roast sans faire des insultes. Mais c'est... Moi, je trouve que c'est exceptionnel ce qu'il a fait.
C'est lui qui est ressorti du lot. Non, c'était vraiment extrêmement drôle.
Alors qu'il y avait les pires punchlines dans l'absolu. Mais ce qu'il a fait avec, c'était exceptionnel.
Magique. Et j'adore, c'est qu'au début, il filme Seth Rogen qui rigole parce que, par sympathie.
Par courtoisie.
Et ils se disent...
Qu'est-ce qu'il fout,
fuck, ouais. Ouais. Et en fait, après, ils ont vu, à mon avis, le génie du...
Ah, il a réussi à embarquer tout le monde dans son trip en très, très peu de secondes, parce que le premier punchline, tu fais « ouais, ok », et après, non, ça va super vite. Donc, ouais, je vais pas dévoiler le punch pour ceux qui veulent le regarder, parce que si tu dévoiles le truc, honnêtement, tu...
Ouais, tu le vois venir, forcément, et c'est pas...
C'est tout de suite un peu moins marrant. Sinon, toi, t'as pas mal suivi, c'est la rentrée des séries télé, on va faire un tour, je sais que t'en as regardé beaucoup. Je vais te laisser les lancer, moi, j'ai pas regardé du tout, donc...
Mais ceux-là, je les ai pas encore vus, forcément, parce que ça va seulement débuter. C'est juste une mini-sélection.
Des projets qui ont l'air les plus prometteurs.
Ouais, et c'est vraiment mini-sélection parce que c'est d'une tristesse.
Ah, en comédie, il n'y a pas grand-chose cette année?
Ouais, c'est une tristesse infinie. J'ai eu du mal, quoi.
Ok, je t'écoute.
J'en ai retenu 5-6, et ça va probablement pas être la grosse rigolade.
Okay.
Ce qui ressort, mais bon. Voilà, sur NBC, le 26 septembre, il y a le Michael J. Fox Show.
Ah, c'est le fameux show où il revient.
Il revient, c'est lui qui a vendu le concept à NBC il y a un peu plus d'un an maintenant.
Il avait arrêté donc parce qu'il y avait le Parkinson.
Et il revient parce qu'il a Parkinson. En gros, il joue un présentateur télé qui a dû arrêter parce qu'il avait Parkinson.
Mais je trouve que c'est brillant parce que c'est tellement un bon acteur. Et la seule façon qu'il pouvait revenir, c'est en ne niant pas la maladie.
C'est exactement ça.
Quoi.
Et donc, voilà, après 5 ans passés avec sa famille, donc il y a lui de connu. Sa femme, c'est Betsy Brown qui joue la femme de Hank dans Breaking Bad. Pour ceux qui voient,
j'espère que ça va être drôle, ceci étant dit, parce que si c'est
mais
pas
j'ai
drôle,
vu une petite
ça
vidéo, une petite bande-annonce, et ça a l'air assez drôle, et il a l'air de bien se foutre de lui.
Mais lui, il est très, franchement, il est très beau. Et
à un moment donné, je pense, dans la bande-annonce, tu le vois, il veut appeler je ne sais quel numéro, genre le 902, et il se trompe parce qu'il tremble et il fait le 911.
Okay.
Et la police arrive, et la police lui dit tant qu'on est là, on peut faire une photo avec vous. Vu qu'il est connu aussi dans la série, même s'il joue pas son propre rôle. Et le flic lui dit ma nièce a la même maladie que vous. Et je fais Parkinson, il fait non, l'autre, mais c'est la même chose, quoi. C'est ça, quoi, c'est encore Alzheimer, Parkinson, enfin, c'est tout le temps les mêmes.
L'autre, mais ouais, c'est la même chose.
Mais, ça, donc, c'est ça génial a l'air, comme punchline. Ouais, non, mais ça a l'air assez drôle, en fait.
Ça, c'est NBC, donc.
C'est NBC, et alors, c'est créé par Will Gluck, qui avait fait Easy A. Je sais pas si t'avais vu ce film-là, avec Emma Watson, et Friends with Benefits, avec Timberlake et Mila Kunis.
En gros, c'est ça, ouais, l'histoire de deux personnes qui doivent faire des efforts parce qu'ils veulent juste coucher ensemble et ils veulent pas tomber amoureux.
Ouais, voilà.
Et t'as Mila Kunis qui fait non, je veux juste que tu me fourres, ne tombe pas amoureux.
Mais c'est ça, c'est ce type-là. Et du coup, voilà, ça a l'air.
Donc, il fait de la science-fiction d'habitude, c'est ça?
Ouais, exactement. Mais c'est voilà, pour un truc de NBC, c'est très, ça reste gentil, ça va pas non plus être subversif à mort, mais
juste pour revoir Michael J. Fox, honnêtement, je suis
voilà, déjà ravi, quoi. Autre chose, ils ont fait pas mal de vannes là-dessus au roast, c'est Brooklyn Nine-Nine. C'est la nouvelle série de Andy Samberg.
Pour ceux qui ne voient pas,
première
qui
c'est série d'Andy Samberg.
Lonely Island, Dick in a Box avec Justin Timberlake, voilà. Entre autres, Mother Lover et voilà, tous les digital shorts à l'époque.
C'est ce type-là. Donc c'est sur Fox à partir du 17 septembre. Il joue un flic. Ils ont fait pas mal de vannes là-dessus, je disais, où il disait ah, un flic drôle.
Et ouais, au début, c'est une comédie. Quand ça va être une fois que vous allez avoir passé genre le vol de sac à main et le fait d'avoir tagué un building, j'ai bien hâte de voir vos vannes sur encore un viol collectif suivi d'un double meurtre. Qu'est-ce qu'on va faire de marrant?
Mais c'est un peu ça, parce que c'est vrai que des flics marrants, bon, tu vois ça chaque année, il y a toujours le même projet. Mais bon, c'est co-créé par le mec de Parks and Rec.
Ok.
Il y a donc Andy Samberg, il y a Chelsea Peretti qui joue dedans, qui est extrêmement drôle.
Et elle est drôle sur Twitter aussi.
Elle est drôle partout. Non, mais moi je la trouve. Non, non. J'aimerais bien, mais je la trouve très très drôle.
Je pensais que t'allais dire que je la croise souvent. Je sais quoi ta vie.
Oh, si tu savais. Donc voilà, ça c'est sur Fox. Sur HBO.
Donc le truc, ça, les espoirs sur le fait que ça soit vraiment marrant.
Ben.
Ils sont très faibles, non?
Tout est très faible. Tout ce dont je vais parler, c'est très faible. Et c'est le haut du panier, c'est ça le pire.
Mais le premier, je trouve ça va. Ce que tu m'as raconté, le truc avec ma
Oui, mais je veux dire, ça va pas être non plus l'éclat total, quoi. Ça va être sympatoche.
Ça va être très sitcomy, probablement.
Voilà, oui, bien sûr.
Ouais.
Je me demande si c'est un multicaméra ou un single caméra, mais bon, je pense que ça va. De toute façon, c'est un grand network, il faut pas non plus s'attendre à. Bon, ça restera mieux que ce qu'on voit ici, de toute façon. Sur HBO, je disais, il y a Hello Ladies, qui est tiré du stand-up de Steven Merchant. Steven Merchant, c'est le co-créateur de The Office, Extra. C'est l'espèce de grande brindille. Tu vois pas c'est qui?
Moi, j'ai aucune idée qui est ce garçon. C'est un anglais, donc
C'est le comment dire, l'associé de Ricky Gervais.
Rikiki? Non, ça... ça va quand même, mais... Non, Steve Martin, j'avais jamais entendu. Mais je connais pas grand-chose de l'humour anglais, donc...
Mais il est pas souvent présent à la caméra. Il s'est en fait révélé avec les Stupid Tourists.
Oui.
Qui en français s'appelle Stupid Tourists, mais en anglais s'appelle...
An Idiot Abroad.
Idiot Abroad, voilà. Où il apparaissait avec Ricky Gervais face caméra. Il avait fait donc un stand-up.
Le point de Stupid Tourist, c'est qu'ils envoient les gens dans...
Ils envoient un pote à eux qui est vraiment bas du front et ils lui font faire n'importe quoi partout dans le monde.
Concept simple, mais toujours efficace. Et ouais. C'est marrant, ils sont marrants les épisodes ou...
La saison 1 est très drôle. La saison 2, c'est un peu répétitif. La saison 3, ça commence à partir en couille parce qu'il y a le nain de Willow. Tu vois, il avait fait une série aussi avec lui, Life's Too Short.
Ouais.
Et ils sont à deux et ça commence à devenir un dîner de cons. C'est un peu...
Ok.
Donc voilà, tout ça pour dire qu'il avait un stand-up où il était tout seul qui s'appelait Hello Ladies, et là c'est sa série, quoi. Il est tout seul aussi pendant 8 épisodes sur HBO, et en gros c'est un anglais à Los Angeles qui va essayer de draguer des gonzesses.
Ok, donc c'est quand tu résumes les films, le premier, donc c'est un mec malade dans un environnement sain, comment il se débrouille. Le deuxième, c'est un body movie. Deux potes vont tenter, genre The Blind Man Leading the Blind Man. Probablement que ça va être deux un peu handicapés qui vont essayer de s'aider. Le Laurel et Hardy des cop movies.
C'est ça.
Et
c'est
le troisième, ça. C'est Fish Out of Water. Donc, c'est un poisson dans le désert. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un n'est pas dans son environnement naturel? Imagine toutes les situations cocasses. Parce qu'en fait, lui, il est anglais, tu vois. À Las Vegas, c'est pas du tout le flegme.
Los Angeles. Mais c'est, je répète encore une fois, Il y a pire.
Et aussi, on peut lui donner un peu de crédit avec ce qu'il a, pour ce qu'il a fait avant. Parce que l'interaction, quand tu regardes...
C'est juste ça, oui, voilà. C'est pour ça que c'est,
j'ai relevé. Les Simpsons, c'est une idée de merde. Les Seinfeld... Mais c'est pas merde, mais je dis, c'est une idée banale. Seinfeld, Friends...
Ça a du potentiel. Après, ça dépend. C'est toujours... La rentrée télé, c'est ça qui est drôle, c'est que t'as un pitch, des noms. Ils ont fait ça, ça et ça. Ils ont créé ça. Et une photo où ils sont en groupe et tous... figé avec des personnages qui des fois disparaissent, enfin tu vois.
Ouais, clairement. C'est comme, c'est que il y a une série, je me souviens plus laquelle, c'est le mec qui joue un mormon et qui a trois femmes.
Big Love.
Si ma mémoire est bonne, le mec qui joue dans la série, c'est pas le même qui avait fait le pilote.
Ah, ça c'est possible.
Donc t'avais genre pour le premier épisode t'as un mec, puis pour les autres épisodes t'as un autre mec.
Non. Alors ou alors ils ont pas diffusé le pilote, mais c'est HBO et ils tournent souvent à l'avance, donc à mon avis.
Ou c'était pas, ils ont changé entre saisons, un truc comme ça, mais on est,
je sais pas.
C'était perturbant. Anyways, ou j'ai peut-être genre complètement faux. Les autres séries.
Mais on n'a pas dit que t'étais sous en fait.
Parlons un jour de show là, Drunk History.
Ah oui, ça, mais ça, ça a déjà commencé.
Ouais, non, mais on pourra en parler à un moment donné de ce qu'ils font, c'est assez spectaculaire.
Autre série, c'est sur ABC à partir du 2 octobre, ça s'appelle Super Fun Night. C'est uniquement parce qu'il y a Rebel Wilson dedans, qui est la grosse de Bridesmaid et la grosse de Pitch Perfect, et qui maintenant devient la grosse de Super Fun Night. Et tu vois, c'est qui? C'est la blonde qui ressemble... qui est pas très jolie.
La seule grosse que j'ai en tête, c'est celle qui joue dans The Heat aussi.
Non, ça c'est l'autre grosse, Melissa McCarthy. Dans Bridesmaid, elle jouait la sœur du coloc de Kristen Wiig. Elle avait un petit rôle. Hein. Elle a plus un grand rôle dans Pitch Perfect.
Attention, j'ai une blague ondard. si je puis me permettre, elle a donc un gros rôle.
Pas mal. Parce qu'elle est grosse.
C'est drôle parce qu'elle est grosse.
Eh bien, écoute, 18 sur 20.
Anyways.
Jean Benguigui approuve. Ouais, c'est produit par Conan. Et en gros, c'est trois amis qui, pendant X années, avaient leur super fun night du vendredi où elles sortaient ensemble. Sauf que maintenant, elle a une petite carrière qui débute. Elle est avocate et elle commence à monter. Et ça va être un peu plus difficile d'organiser des super fun nights le vendredi.
Oh mon Dieu, c'est un coming of age, donc.
Voilà. Mais la bande-annonce, encore une fois, ça a l'air plus ou moins sympatoche.
Au moins avec Conan qui produit.
C'est produit Conan, c'est... Par Conan, pardon.
Si c'est pas drôle, au moins ça va être divertissant parce que ça va être bizarre, en théorie. Et Conan, tu sais que c'est pas tout le monde qui le sait, mais le gars, à la base, était auteur pour les Simpsons.
On en a parlé la semaine passée.
Oui?
Oui.
Personne n'a écouté la semaine passée. Personne n'a écouté
cette semaine. On en reparlera la semaine prochaine.
C'est ça.
Et celui qui ne le sait toujours pas, ça va chier, les gars.
Tu sais quoi? Je suis en charge du montage et si j'étais pas aussi paresseux, laisse-moi dire que j'enlèverais ce moment-là du podcast.
Rien que celui-là.
Donc ok, ça commence le 2 octobre.
Le 2 octobre, voilà. Dans les grosses chaînes, il y a un peu que ça.
Sérieux?
Ouais, non, je vais te dire après ce que j'ai pas retenu.
Ouais, vas-y.
Vite fait, bien fait. Mais attends, j'ai encore deux, trois séries à te parler. Et tu verras vraiment le reste, c'est quoi. Sur IFC, qui est une petite chaîne du câble, pour l'instant, ils sont connus pour Comedy Bang Bang, tu vois, c'est quoi?
Ah oui, c'est un truc, oui!
Ça, c'est extrêmement bizarre, mais c'est tellement drôle. C'est un espèce de faux late night, ou en tout cas un faux talk show, où tout est joué. Même l'invité participe aux blagues. C'est extrêmement bizarre. Il y a des objets qui parlent.
Et il y a un podcast aussi, Comedy Bang Bang, qui est très dur à suivre parce qu'ils font des fausses interviews. Un personnage, entre autres, ancien directeur de film allemand des années 50.
Là, c'est un peu plus simple parce que c'est visuel, mais ça reste... Il faut s'accrocher, quoi.
Ouais. Et bon. S'il faut vraiment parler en général hyper bien anglais pour comprendre, parce que c'est déjà... Même si tu parles la langue, c'est weird. Donc, si tu loupes deux, trois mots,
ouais, non, c'est
assez facile de perdre.
Mais bon. Bon, tout ça pour dire qu'ils font ça. Portlandia, c'est eux. Maron, la série basée sur le podcast de Mark Maron, c'est eux. Et ils avaient une série qui s'appelle The Increasingly Poor Decision of Todd Margaret.
Ok, donc une décision quatre... de plus en plus naze, mauvaise de
Margaret. Todd Margaret. C'est David Cross, qui est surtout connu chez nous pour Arrested Development.
Ouais.
C'était une série, mais tellement bizarre, il y a deux saisons. Et en fait, il était envoyé par sa boîte en Angleterre pour lancer la marque pour laquelle il travaille en Angleterre. Et c'est de pire en pire, en fait. Tout ce qu'il fait,
ouais,
le fout dans la merde, il se retrouve en prison. Enfin, c'est à hurler de rire.
Le doigt dans l'engrenage.
Voilà, et c'est très drôle. Donc tout ça, c'est sur cette chaîne-là. Et là, ils ont un nouveau truc qui s'appelle The Birthday Boys, qui en fait, Birthday Boys, c'est une troupe. que je ne connaissais absolument pas.
Moi non plus. C'est aussi une expression qui veut dire c'est ton anniversaire.
Et en fait, voilà, c'est leur show. Ce sera un show à sketch. Mais c'est surtout produit par Ben Stiller et Bob Odenkirk. Donc ça va être, à mon avis, pas trop mal.
Bon, ça, c'est ce que tu as retenu.
Ouais. Tu veux un dernier truc que j'ai retenu?
Ouais.
Avant de passer au pire du pire. Comedy Central, ils ont un duo de late night qui marche très bien. C'est Daily Show avec Jon Stewart et Colbert Report avec Stephen Colbert. Ils ont enfin un troisième pour suivre Colbert. Ça s'appellera At Midnight et c'est présenté par le hyperactif Chris Hardwick.
Ah, cool!
Donc, en fait, c'est un jeu. C'est pas vraiment un late night, okay. Late night, mais c'est un jeu. C'est produit par Tom Lennon. Je sais pas si toi, c'est qui? Qui est un type extrêmement bizarre, mais extrêmement drôle.
Non.
Et voilà, en fait, c'est un jeu télé détourné un peu.
Todd Lennon?
Tom Lennon.
Est-ce que c'est pas lui qui écrit des films avec un...
Avec...
son partenaire?
Ben Garant. En fait, ils avaient une série qui s'appelle Reno 911.
Oui.
Qui est très, très drôle aussi.
Et eux ont écrit...
Ils ont écrit plein de films de merde. Et ils ont écrit un livre sur comment ils ont fait plein de thunes en écrivant ces films de merde.
C'est How to Write for Fun and Profit, How We Made a Billion Dollars in Hollywood.
Et je crois que Fun est barré sur la couverture ou un truc dans
exactement.
Le genre.
Exactement.
C'est eux.
Je l'ai acheté sur le Kindle, le livre. Et ça peut être vu comme étant hyper cynique, ce qu'ils font, mais ils disent juste que, ben, on sait qu'on est capable de faire des films qui marchent, puis on le fait, puis voici comment ça fonctionne. Et en lisant le livre, ce qui est vraiment frappant et qui est assez bon quand tu essaies de faire de la comédie aussi, c'est qu'il t'explique que ton éthique de travail, en fait, elle est nasse. Tu penses que t'as réussi à écrire un script. Bravo, on s'en fout. Il faut que t'aies toujours au moins 5-6 films de presse, qui fait que si tu vas un jour dans un meeting, tu pitches ton premier, ça marche pas, mais il faut que tu pitches les 2-3 autres.
Et c'est comme ça qu'ils ont fait, ouais.
Et s'ils sont contents de tes films, en fait, ce qu'ils vont dire, c'est on en a rien à foutre de tes films, mais on a plein de scripts qui traînent chez nous, on a envie que tu retravailles dessus. Et c'est quand, en lisant ce livre-là, je fais putain, c'est vrai, nous on est là avec regardez, j'ai un stand-up depuis 5 ans. Putain, même si tu le joues parce qu'il marche encore, arrange-toi pour avoir 3-4 heures de blagues derrière de prêtre, puis écris un livre, puis un deuxième livre, puis un film, puis une série, puis un autre pitch. Et là, ils ont un nouveau truc qui s'appelle Hell Baby.
Hell Baby, oui, qui était à Montréal il n'y a pas très longtemps.
Et en gros, ça a coûté 1,9 million à produire leur film. Et on a voulu faire un film low budget cette fois-ci. Eux, ils ont fait Night at the Museum aussi, entre autres crap. L'horrible film Taxi, la reprise de truc de Luc Besson.
Avec Jimmy Fallon.
Avec Jimmy Fallon et Queen Latifah.
Queen Latifah.
Eux. Et ils ont dit que c'était le pire film qui, non seulement eux ont fait, mais qui n'avait jamais été fait de l'histoire. Et là, on a fait un film à petit budget, donc le Hell Baby, parce que ça va nous permettre de... avoir la paix. Les gens nous ont donné le pognon et ils n'ont pas demandé à regarder quoi que ce soit. Donc, ils disent, on a une scène, entre autres, de nudité qui dure 7 minutes où tu as une nana qui... se met de l'huile sur elle et frotte l'huile sur elle pendant qu'elle nous raconte une anecdote sur comment elle s'est fait piquer son banjo. Et tu dis, ah tiens, ça va être une anecdote importante pour le film. Et puis non, on n'en parle plus jamais. Ça n'a aucun intérêt, outre le fait
que... Mais j'ai toujours pas vu le film. Je sais pas si tu l'as vu. Je sais qu'il est dispo. C'est avec Rob Corddry. Enfin, il y a pas mal de gens marrants dedans.
C'est du gros nonsense. Moi, j'ai pas encore vu.
Oui, hein.
J'ai entendu pas mal d'extraits. Et j'ai entendu une interview d'eux qui parlait chez Kevin and Bean à Los Angeles, donc sur le podcast de la matinale de K-Rock. Mm-hmm. Et c'était super intéressant. Ça me donnait envie de voir le film. Et donc, lui, il produit le truc.
Le nouveau jeu, du coup, qui s'appelle At Midnight et qui sera présenté par Chris Hardwick.
Très, 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 très bien. Les trucs que t'as pas retenus.
Ah! Alors.
Il peut toujours avoir des bonnes surprises, hein. ça arrive.
Ah oui, non, c'est sûr, tu peux te tromper, mais c'est pas très encourageant.
Et t'as pas envie de trop placer les trucs en premier. Quand j'ai vu tous ceux qui sont payés Antoine Decaune après la première, tu te dis putain, c'est bon. Déjà, faire un truc génial, c'est dur. Mais faire un truc génial du premier coup, ça arrive quasiment jamais.
Mais surtout que ça, hein, par rapport à ce qu'il y avait avant, ça va quoi.
Peut-être c'est qu'il y a peut-être beaucoup dit que ça allait être une cassure, que lui allait faire la différence. C'est peut-être ça, mais tu dis, t'as l'impression qu'il y en a qui attendaient genre l'accouchement pour pouvoir garder le bébé à la sortie.
Hein. Il aurait peut-être pas dû parler de talk show à l'américaine en deuxième partie, parce que on en est très 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 loin.
Mais je pense que les gens qui disent talk show à l'américaine, souvent,
Mais ils n'ont pas vu. Mais oui, voilà, parce que c'est pas un talk show à l'américaine.
Mais surtout que talk show à l'américaine, déjà à la base, ça veut rien dire parce que Ellen DeGeneres fait un talk show à l'américaine et Craig Ferguson fait un talk show à l'américaine.
Ils sont opposés.
Et Jon Stewart fait un talk show à l'américaine et Oprah Winfrey fait un talk show à l'américaine et Good Morning America, c'est un talk show à l'américaine et Dateline, c'est un talk show à l'américaine et Bill O'Reilly, c'est un talk show à l'américaine et Pardon the Interruption, c'est un talk show. Et je vais arrêter parce que je pense que ça fait 10 name-dropping que je fais, mais. Arrêtez d'utiliser ça comme une fucking expression toute faite quand vous savez pas de quoi vous parlez. On va faire un show pour les êtres humains. Ah ok, ce fameux show là. Asshole.
Mais non, mais voilà, il y a pire franchement à la télé française. Il y a pire aussi donc à la télé américaine. Je disais sur Fox, il y a une série qui s'appelle Dads.
Oh.
Par Seth MacFarlane. Que je conchis.
Ah ouais, tu. Oh. Family Guy, pas. Oh,
rien du tout, rien.
Tu sais qu'il va y avoir un horrible épisode, Family Guy.
Avec les Simpsons.
Oui, ils ont finalement fait un accord. Mais les Simpsons, ça va plus du tout non plus. Hein.
Ah, moi, j'allais en reparler. Moi, je trouve ça encore plus drôle qu'avant.
Sérieux?
Ah ouais.
Tu sais quoi, on parlera des cartoons une fois, faire un peu le tour de tout ce qui se passe. Et donc, Dads, c'est quoi? Donc, c'est un dessin animé ou c'est un.
Non, c'est son. Enfin, c'est pas son premier. Il avait fait un autre truc il y a en 2007, je pense. C'est du live sitcom classique.
Ok.
Où Seth Green et Giovanni Ribisi revivent avec leur père respectif.
Ok. Seth Green, c'est le petit qu'on a pu voir entre autres dans Entourage. C'est lui qui avait un beef avec E dans Entourage. Il fait Robot Wars.
Robot Chicken.
Chicken, pardon. Et oui, c'est ça le truc où il y a les petites figurines, les petits jouets Star Wars. Il fait la voix en anglais de Chris, le fils dans Family Guy. C'est lui qui.
C'est vrai?
C'est lui qui fait la voix.
C'est vrai.
Et donc, c'est lui qui fait la voix du mec et c'est Mila Kunis qui fait la voix de la fille. Donc...
Entre autres, il y a Sarah Michelle Gellar. Il a repris plein de potes de chez. Quand il jouait dans Buffy. Enfin, il y a beaucoup de fois Macaulay Culkin aussi dans Robot Chicken.
Ah oui?
Ouais, ça, c'est drôle.
Intéressant.
Voilà.
Mila Kunis, moi, je veux dire, elle jouait la fille dans Family Guy, par contre.
Ouais. Mais je veux dire, elle est aussi dans Robot Chicken.
Ah, ok, je savais pas. Et donc, ouais, ça, Dad, et donc, c'est toutes leurs aventures rocambolesques.
Avec leur père. Ha! Voilà. Autre chose, The Crazy One sur CBS, c'est le retour de David Kelly qui avait créé Ally McBeal et tout ce genre de trucs. Il revient. David E. Kelly, ouais. C'est même un des moins pires de la liste parce que c'est le retour de Robin Williams.
Sérieux?
Ouais, à la téloche.
Ah merde, j'avais pas.
Et comme moi j'aime encore bien ses grimaces, je vais regarder probablement. Et il y a Sarah Michelle Gellar dedans. En gros, il joue père et fille qui ont une agence de pub. Et bon, lui, il est un peu foufou, quoi.
Ah, c'est de Crazy
voilà,
One
mais c'est encore... ouais voilà.
Moi tout ce que j'espère c'est qu'à Noël il va lui offrir un jeu et qu'ils vont jouer ensemble toute l'année. Jumanji.
Mais c'est encore un truc de bureau, enfin c'est il fait plus que ça quoi, David Kelly. Mom sur CBS,
c'est comme Dad mais sans les pénis. Dad,
mais c'est avec la mère, et la mère c'est Alison Janney, c'était une ancienne droguée, la fille c'est Anna Faris. Et le créateur
très drôle,
mais mal exploité dans tout ce qu'elle a fait.
Anna Faris. Parce qu'elle est un peu. En fait, le problème c'est qu'elle est un peu hot. Et donc on dirait que les gens hésitent entre la déshabiller puis la rendre marrante.
Mais il la rend surtout bête, ce qui lui va très bien. Mais je trouve qu'elle est mal exploitée. Elle aurait pu avoir une meilleure carrière que ça.
Et c'est pas avec Moms, tu penses que ça
je
va arriver?
Je pense pas. Surtout que c'est Chuck Lorre, le créateur. On lui doit ce qu'il y a de pire à la télé.
Mais aussi Big Bang Theory.
Ah, moi, je déteste Big Bang Theory.
T'es sérieux?
Ah, Family Guy, tout ce que fait Seth MacFarlane, tout ce que fait Chuck Lorre, je déteste, mais à un point...
En fait, moi, je trouve que Big Bang Theory, que je connais depuis pas longtemps, j'ai regardé pas longtemps, j'ai dû checker 20-25 épisodes, j'avais jamais regardé, et au début, tu te dis, ah, ça va être hyper sitcomie, quoi. Ça va, tu vois que c'est écrit par les gens qui sortent des mêmes écoles, qui ont pris les scénarios, qui les écrivent, mais je veux dire, les yeux fermés, ils secouent les mots, ils les jettent, ça fait un nouveau script. Mais je trouve que la façon dont les...
Et c'est pas ça.
La façon dont les personnages ont les acteurs ont incarné les personnages, même si tout est, c'est vrai, assez sitcomy, je trouve qu'il y a suffisamment de vie dans les personnages pour que ce soit vraiment intéressant.
Ouais.
C'est quoi, je vais te laisser regarder un show de clown pendant que je check Big Bang Theory.
Oh, ben avec grand plaisir. Non mais voilà, c'est ce mec là bon, il a pas fait que ça, Two and a Half Men, c'est lui.
Ouais.
Mike et Molly avec Melissa McCarthy, où en fait c'est deux gros, haha, c'est lui.
C'est deux gros, mais ils s'aiment.
Ils s'aiment.
Oh. Mais comme ils sont gros, il y a tellement de choses qui sont moins faciles. Comme par exemple manger.
C'est ça.
Et il y en a des fois qui cachent la nourriture parce qu'ils mangent en cachette.
Si tu veux être très bien payé, tu peux aller à Los Angeles. Tu racontes ce que tu viens de dire.
Je signe.
Et il a un autre truc encore.
Il n'y a pas d'âge.
C'est la même chose, franchement. Bon, voilà, donc c'est ce type-là. Chaque année aussi, il y a un nouveau projet avec que des mecs. Une bande de mecs.
Ah ouais.
Et c'est souvent misérable. Ici, ça s'appelle We Are Men. Ils ne sont pas cassés le cul.
Avec qu'est-ce qui se passe avec les titres? Les créatifs étaient partis en vacances quand, avant la deadline pour mettre Moms, Dads, The Crazy One, We Are Men. C'est pas obligé le titre d'être le fucking pitch de ton hostile émission. On n'est pas si
parce que celle d'après, c'est pareil.
Ouais.
Celle d'après, c'est pareil.
Mais ça, c'est la francisation des titres aussi où on pense que t'es tellement débile que tu. Oh, anyways. On va expliquer aux gens ce que c'est, sinon ils comprendront pas.
Mais c'est quatre potes là, okay, qui vivent dans un complexe, un espèce de truc à la Melrose Place avec une piscine et un terrain de tennis. Et c'est Tony Shalhoub, donc Monk, Cal Penn, Jerry O'Connell et un quatrième que je connais pas. Et ben, ils sont des hommes, c'est des hommes en fait.
Mais le cast a l'air d'être pas si mal. Cal Penn, c'est le mec de Harold et Kumar.
Harold et Kumar, ouais. Jerry O'Connell, bon, voilà.
Qui a joué dans Piranha 3D.
Ouais.
J'ai adoré Piranha 3D. Ouais.
Mais bon, voilà. Mais dans tous les projets là, le cast n'est jamais mauvais, c'est juste.
Ben parce qu'ils vendent sur base du cast et sur base du pitch. Donc le pitch, We Are Men, quatre potes vivent leurs aventures de quadragénaire.
Voilà, c'est ça.
Ensemble, avec un tel, un tel, un tel, et comme ça, donnez-nous des sacs d'argent, quoi. Mais tout dépend tellement du réal puis des auteurs. Parce que les acteurs, tu sais qu'ils sont capables, s'ils sont bien dirigés, ils sont tous
mais
bons.
Mais ça dépend,
quoi,
aussi de la chaîne, tu vois. Ça, c'est des trucs sur CBS. Moi, CBS, il y a. Allez, ce qui m'a fait rire, c'était il y a 10 ans, c'était How I Met.
Ouais. C'est en fin de la dernière saison.
Enfin. C'est un plus drôle, je suis parce que juste j'ai besoin d'un minimum de savoir, mais ça me fait pas rire.
Sinon, t'as l'impression d'avoir jeté 9 années de ta vie.
Ah ouais, c'est juste pour ça. Mais c'est aussi un problème de chaîne. CBS, c'est.
Mais c'est celle qui cartonne le plus, hein. Donc c'est
oui,
pas celle qui va prendre le plus de risques.
C'est le TF1 américain, ils donnent aux gens ce qu'ils veulent, même si c'est pas bien. Ben, les experts, tout ça, c'est eux.
Mais ils ont aucune raison de pas le faire.
Ah non, non.
Ils cartonnent.
Non, non, mais le problème, c'est que c'est ces séries-là qu'on achète en premier, forcément. Parce que c'est les seules séries où tu peux miser ta main et t'es sûr qu'elle va survivre plus d'une saison.
Ah ouais. Alors que c'est quelque chose comme 17% des séries qui survivent à la première saison. Je crois que c'est ça la stat.
Ouais, non, c'est vraiment bas. Mais quand tu vois ce machin-là, franchement, pas vraiment de regret.
En même temps, tu vas au moins regarder un épisode, j'imagine.
De chaque, comme je fais, ouais, chaque année.
Parce que des fois, il y a des bonnes surprises, des trucs qui peuvent ressembler à rien.
Mais oui, comme je disais, tu sais pas vraiment juger sur un pilote ou sur une photo ou un casting ou un pitch.
C'est moi, le dernier vraiment série que j'ai suivi avec plaisir, alors que le pitch semblait un peu aussi gros comme ça, puis il y avait pas énormément à part Ed O'Neill de nom connu dedans.
C'est moderne.
Modern Family. Moi, j'ai adoré.
Mais tu continues encore de regarder?
J'avais décroché au début de la troisième saison.
Moi, j'ai arrêté parce que ça se veut moderne, justement. Mm. Et c'est vieux à mort.
Ah, c'est vieux jeu. C'est complètement
vieux.
C'est...
Même ce couple gay, en fait, bon, ils s'embrassent pas. Et c'est juste un vieux ressort de vieux couple. Mais en fait, c'est deux mecs, voilà.
Mais je trouve que c'est super bien. Et c'est drôle dès le premier épisode.
Il y avait une très bonne alchimie, mais moi, je trouve que ça s'est vite essoufflé.
Moi, j'ai arrêté, j'étais au début de la troisième, et quand j'ai recommencé à les regarder, et là, j'ai du plaisir et j'ai envie de continuer. Et le dernier gros hit que moi, j'ai pas du tout accroché, c'est The New Girl avec Zoé Deschanel.
Mais t'as regardé combien d'épisodes?
Ah putain, j'ai regardé, je crois, en fait. Et tous les produits que j'ai trouvés dans la maison, je crois même que je mangeais comme du pop-corn, de la mort au rat pour essayer de passer à travers.
À ce point-là?
Le premier épisode. Alors que...
Mais c'est très, 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 très girly, mais maintenant, ils ont des bons personnages.
Ouais.
Autour d'elle. Elle est limite...
Mais déjà, le pitch où t'as trois mecs qui reçoivent Zoé Deschanel dans leur appart et qu'elle raconte le fait qu'elle n'arrive pas à avoir de succès avec les mecs...
Mais ils s'en sont moqués. Mais puis, ils ont des très bons auteurs. Ils ont Kay Cannon, qui a bossé des années à 30 Rock et au SNL. Elle est scénariste. Elle joue dedans de temps en temps.
Ça vaut la peine de... Pour ceux qui ne voient pas le pitch, c'est trois mecs qui cherchent une coloc. C'est Zoé Deschanel qui arrive. Et oh, oh, oh! Non, mais en plus, là où j'ai décroché, c'est quand un jour, elle arrive avec une pote et tous les mecs bandent sur la pote parce que la pote, elle est canon. Elle n'est pas plus canon que Zoé Deschanel.
Mais Zoé Deschanel a des lunettes.
Oui, donc elle peut pas être belle. Mais un jour, elle va enlever ses lunettes.
Mais c'est le trio autour, à part le black qui ne sert à rien. Il a le pire storyline au monde. Des fois, tu te dis, qu'est-ce qu'il faisait dans l'épisode? Ah oui, perdu ses clés. Enfin, les autres sont drôles et ils commencent à monter au cinéma et c'est ça se laisse regarder quoi. Entre
très bien dit, ça fait une heure donc 55 minutes donc on va essayer de rapper rapidement. Ouais. Raconte-moi encore deux trois trucs rapides sur peut-être les séries ou une autre note que tu avais.
Ouais, il y a sur CBS il y a The Miller avec Will Arnett qui en a sa quatrième série en un an.
Ouais.
Annulé très vite. Lui aussi, ses parents reviennent vivre chez lui. Trophy Wife, qui est en fait une Trophy Wife, jouée par Malina Kerman sur ABC, où elle est tellement bonne que les enfants ils sont un peu excités, voilà.
Si les enfants sont vraiment excités, là, ça peut être marrant.
Ouais, ouais. Bon, à mon avis, ce sera juste une vanne dans le tas. Ouais. Et,
en même temps, on n'en sait pas plus, parce que c'est le pitch, mais en même temps, c'est rien. Tu vois, mettons, les Simpsons, une famille américaine qui se déteste, mais qui s'aime quand même. Qui s'aime, mais qui s'engueule tout le temps.
Ouais, oui, non, c'est sûr, mais bon...
Mais ça fait... C'est juste un peu chiant la façon dont ils le vendent, je trouve. Anyways.
Donc, ils le vendent ou moi, je le vends? Un mélange des deux, hein.
Mais ça se voit que t'es fatigué, non, t'en as trop vu.
Mais ça fait des années que je suis des machins pareils et ouais. Tu vois plus ou moins ce qui va se passer.
Tu vois les catastrophes industrielles arriver.
Un autre truc qui, ça allait aussi, c'est The Goldberg sur ABC avec Jeff Garlin, le gros de la série de Larry David.
Ouais.
En gros, c'est une série qui se passe dans les années 80. Mm-hmm. Et il y avait un enfant, genre à mon avis le voisin, qui a filmé tout sur sa caméra et tu revois les moments des années 80. Ah. Et l'enfant a grandi, et c'est lui qui narre la série, c'est Patton Oswalt qui raconte. Mais en gros, c'est une famille dans les années 80.
Bah, ça peut être intéressant.
Avec des vieux pulls dégueulasses. La photo de promo est assez drôle, ils ont des pulls. Mais bon, voilà.
Et ça, c'est drôle, les chandails comiques, comme vous aimeriez.
Mais voilà, c'est pas une très grande rentrée, c'est pas.
Moi, j'ai vu deux, trois trucs dans les podcasts et j'essaie de résumer. Le plus intéressant, c'était un qui traînait dans mon iPod depuis un bout de temps. C'était le podcast de Sam Simon, donc co-créateur des Simpsons. Il avait aussi été showrunner pour Taxi et Cheers, je crois, mm-hmm. qui est avec Mark Maron, donc dans WTF. Et en fait, il a pris sa retraite, je crois, à 35 ans, lui, parce qu'il était déjà showrunner à 23.
Il gagne encore 17 millions par an grâce aux Simpsons.
Ouais.
Mais il est parti après trois saisons.
C'est ça. Je crois que c'est dit trois ou quatre, mais c'est...
Ouais, tout au début, en tout cas.
Et il est... c'est une espèce de vraie langue de pute qui dit tout ce qu'il pense de tout.
Il va mourir. Hein.
Et là, le cancer, ça, truc... En théorie, il avait 3 à 6 mois à vivre et ça fait donc 6 mois de ça. Ouais. Et il raconte comment il vit sa maladie, ce qu'il pense du showbiz, ce qu'il pense des Simpsons. Comment... Et il donne des super bons conseils pour ceux qui écrivent des séries. Et il dit, j'ai trois règles de base. Mm-hmm. La première, it's all about the story. C'est peu importe ce que tu fais, c'est l'histoire qui compte. La deuxième, don't be afraid of silence. Et n'hésitez pas à mettre des silences et des temps morts dans les séries.
C'est pas faux.
Et le troisième, you gotta love your characters. Et tu peux pas juste faire un mec qui est con. Et nous, dans les Simpsons, au début, on hésitait. Il y a eu des hésitations sur le... Est-ce que... Les Simpsons sont au courant qu'ils sont dysfonctionnels et est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre? Et à toutes les fois qu'on était dans un truc qui était un peu trop amer ou un truc comme ça, c'est Matt Groening qui refusait de le faire parce qu'il disait non, il faut que ça soit quand même un minimum sensible, un minimum intéressant. Et c'est ça qui fait que la série a pu marcher parce que même s'ils s'engueulaient autant, il y avait envie.
Ils s'aiment.
Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'était trois conseils assez intéressants.
C'est un chouette gars, hein. Il est en train de donner toute sa thune à des associations, à des... Enfin, voilà quoi.
Il donne du fric pour, entre autres, nourrir 200 familles par jour, je crois, un truc comme ça déjà. Puis il est à fond dans les trucs pour les animaux. Donc,
les animaux, ouais.
Sam Simon sur WTF, c'est super intéressant. Et j'avais jamais écouté le Comedy Cellar, donc le fameux Comedy Club à New York où on voit dans le générique de Louis C.K., mm-hmm. où c'est le que Louis C.K. dans la série Louis joue, a un podcast. Et t'as blindé d'humoristes donc qui sont là, qui vont passer et ils ont des différents thèmes. Mm-hmm. Et moi j'ai entendu, c'était un truc, il parlait vraiment de l'industrie de l'humour. Forcément, c'est très l'Insem Shop de l'humour. Mais sur le fait de quand est-ce que tu cartonnes, est-ce que c'est objectif de dire que quelqu'un est bon, est-ce que tu peux dire que quelqu'un est le meilleur, comment ça marche. C'était super intéressant. Donc ça, c'est. Et le dernier, c'est sur le fait de working dirty. Donc le fait d'avoir. Est-ce que tu es vulgaire ou pas être vulgaire, comment ça marche. Et donc ça s'appelle juste simplement The Comedy Cellar Podcast. Et franchement. Si vous aimez le moindrement le monde de la farce,
c'est un peu pas du tout.
C'est un peu branlette Parce que mine de rien, c'est des trucs qui
s'écoutent parler.
Ouais, ben ils sont un peu dans la green room en attendant, je crois, d'aller jouer aussi le soir. Mmh. Les gens passent et ils sont très. Ouais. Un peu comme des trop gros fans de menuiserie commencent à parler du bois et donc tout revêt une importance.
Mais il y a un circuit de podcast sur le bois. c'est impressionnant.
Mais il y a beaucoup de livres, ce qui est quand même ironique parce que si t'aimes le bois, le fait de tuer des arbres pour faire du papier, ça me semble contre-productif, mais c'est pas ça le problème. Et donc voilà, c'est un tout petit peu un peu nombriliste parce que je dis, il y a des détails qui leur semblent si important alors que tu fais putain rester calme les gars, c'est juste des farces quoi. Mais forcément eux investissent toute leur vie dans ce job là donc il faut que ça soit important, sinon ils investissent leur vie pour rien quoi. Donc Comedy Cellar Podcast, c'était peut-être le deuxième truc à souligner pour moi cette semaine.
Ok,
autre chose?
Plein d'autres choses, mais ça attendra
la semaine prochaine.
Ouais, je pense.
Merci beaucoup. Donc toi, tu vas mettre les liens encore sur
le Tumblr et sur le Twitter et
Tumblr, il y a une adresse précise ou
C'est cnwpodcast.tumblr.com
et le Twitter c'est twitter.com/cnwpodcast. On peut te suivre aussi, toi c'est @AnthonyMirelli.
Ouais,
un R,
deux L.
Moi c'est @DanJGagnon. Voilà, merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Ciao,
bye bye.